France Info.
Bonjour Panayotis Pasco.
Bonjour.
C'est d'abord votre visage qui a séduit vos petites vidéos d'abord diffusées sur le réseau Vine. Ces petites bulles de 6 secondes ont convaincu la télévision Canal+ de vous intégrer à l'émission Le Petit Journal, puis à Quotidien quand Yann Barthès a décidé de changer de chaîne. Mais ce visage, qui ne laisse pas indifférent, vous a aussi ouvert les portes du cinéma avec un premier rôle remarqué dans la comédie Adopte un veuf, celui de Julien, un patient timide. Timide vous l'êtes, vous l'avez toujours été, et c'est sans conteste ce qui vous a amené à vous faire violence pour justement dénoncer la violence d'une santé mentale qui vous habitait et surtout qui vous empêchait. C'est à ce moment-là que votre visage est devenu une voix, vous permettant d'en ouvrir une autre. Votre courage et la furieuse envie d'en sortir vous ont poussé à écrire ce livre sublime, La prochaine fois que tu mendras la poussière, aux éditions Stock. Une ode à la vie qui affronte vos démons, vos joies, vos peines, vos doutes, avec la relation avec votre père, votre homosexualité également. Depuis, vous n'avez cessé d'écrire, avec votre revue entre les deux, avec la complicité d'Idriss Tidjani, et votre spectacle qui passera par la scène de l'Odéon, qui est une première pour un humoriste. D'ailleurs, vous en êtes très très fier. Vous y serez du 26 au 31 décembre et en tournée après dans toute la France avec un passage par l'Olympia du 20 au 24 janvier 2026. L'entre-deux, le fait de rester dans l'entre-deux entre la vie d'adulte et la vie d'enfant, Panayotis Pasco, c'est ce qui semble être la clé pour réussir à survivre dans ce monde de brutes pour vous.
C'est une bonne question. Juste avant, pour les téléspectateurs et les auditeurs, on parlait en off d'un entretien avec Agnès Jaoui, et justement la fin de cet entretien qui m'a vraiment fait du bien en parlant avec Agnès Jaoui pour la petite revue, ça a été de se dire qu'au final c'est très plaisant d'être dans cet entre-deux, c'est-à-dire d'être autant un petit peu inséré dans la société des adultes, ce qui est peut-être la définition même des adultes, c'est qu'on est inséré, on se sent à sa place et on a un but, on croit au but qui nous porte, mais c'est aussi de garder cette insouciance et ce rapport au présent qu'ont les enfants et qui est magnifique, que j'ai pas vraiment su faire. J'en parle dans le spectacle. Quand j'étais enfant, j'ai toujours été un aspirant adulte, quoi. Je voulais pas trop être dans le présent, mais au final c'est tellement beau. Moi j'ai beaucoup de neveux et de nièces en ce moment, et quand je les garde, de voir juste ce rapport au présent, c'est magnifique. Donc effectivement, vous avez raison, c'est peut-être être un peu entre les deux.
Vous vous définissez comme un vioque d'ailleurs.
Ouais.
C'est assez étonnant. C'est ce qu'on appelle les vieilles âmes quand on regarde bien. C'est une richesse qu'on découvre un peu plus tard avec le temps et avec l'expérience de la vie inévitablement. Je me posais la question de savoir quel rêve vous avez finalement accompagné tout au long de cette enfance.
Il y
vous
en a parlez eu jamais. Plein, mais vioque aussi, parce que là les gens ne savent peut-être pas, mais je suis en polaire par exemple. Quel jeune homme qui veut être cool de 27 ans met des polaires pour aller faire un entretien? Non, je suis vioque pour plein de raisons. Dans l'enfance, j'ai choisi de faire de l'accordéon au lieu de faire de la guitare parce que je voulais plaire aux adultes et je me disais faut faire un instrument adulte plutôt qu'un instrument d'ado avec les cheveux longs et gras. Effectivement, j'ai loupé pas mal de choses, mais enfant, j'avais des rêves, ouais, des métiers très adultes en fait. J'ai voulu être faire un peu de politique. Je m'étais dit tiens, ça a l'air d'intéresser les adultes, la politique, même tout tourne autour de ça tout le temps.
Vous compactiez d'ailleurs les photos des hommes et des femmes politiques,
oui,
dans un glaçage.
Exactement, en fonction du clivage gauche-droite pour essayer de suivre les conversations de mes tontons à table. Je me disais, tiens, alors Martine Aubry, elle est plutôt de ce côté, d'accord, où est-ce qu'il est Bayrou? Je sais pas, je le mets sur la ligne, alors très bien. Et je collais tout comme ça, et je pouvais suivre les conversations. Et je me disais, mais en fait, avec du recul, je me rends compte que je voulais pas être homme politique. Je me disais, ça a l'air de plaire aux adultes, je veux plaire aux adultes, donc je vais faire ce métier. Mais j'ai aussi voulu être architecte. J'avais l'impression que pouvoir dessiner une maison dans laquelle les gens allaient habiter, c'était quelque chose de fantastique. Et au final, je fais un métier que j'aime beaucoup, artiste, mais plutôt raconteur d'histoires. J'aime raconter des histoires et j'aime que les gens puissent... pendant un instant, être dans une bulle. Là, vous parliez de l'Odéon. Ce qui m'excite en ce moment, c'est de me dire que dans un mois et demi, je vais faire plusieurs soirées de bulles pour les gens à l'Odéon, dans cette salle magnifique. Et on va pouvoir tous ensemble plonger dans une histoire. C'est quand même quelque chose qui est magnifique, c'est une chance.
C'est un lieu qui a accueilli l'insurrection de la jeunesse.
Ouais.
C'est très important pour vous, ça, d'ailleurs. Ça en dit long. En tout cas, vous avez découvert ça sur le tard. Mais vous vous êtes dit que finalement, il n'y avait pas vraiment de hasard.
Non, en fait, moi, c'était vraiment... quand j'ai écrit ce livre dont vous parliez, j'ai fait une tournée un peu en France de signatures, de rencontres des gens, et c'était des thématiques assez graves. Donc, j'avais un peu le nez dans le guidon. Voilà, je parlais beaucoup de choses assez sérieuses avec plein de gens. Et puis, j'ai eu envie, en revoyant un ami à moi monter sur scène dans un comedy club, de remonter sur scène. Je me suis dit quand même, j'ai envie de rigoler avec des gens partout en France, partout ailleurs d'ailleurs, puisque je joue un peu partout. Partout, on veut bien m'accueillir. Et je me suis dit, j'ai besoin de remonter sur scène et je veux que le mot d'ordre, le mot clé soit le kiff. Je veux me faire kiffer. Et je passais à vélo devant l'Odéon et je me suis dit, il y a cette fameuse terrasse que vous connaissez peut-être avec plein de jeunes qui boivent des coups jusqu'à pas d'heure. Et je me suis dit, mais pourquoi j'irais pas jouer ici? Et on m'a tout de suite dit, il y a pas de stand-up, il y a jamais de stand-up là-bas, il y a pas d'humour, quoi. C'est le premier théâtre national de France, il a été inauguré par Marie-Antoinette, on va pas faire du stand-up là-bas. Et je suis allé toquer, je leur ai parlé du projet et ils ont accepté. Et donc, j'ai découvert après que c'est un lieu qui a été effectivement très lié au questionnement de la jeunesse, au rapport entre la jeunesse et le monde établi par les générations d'avant. Et du coup, je trouvais que ça avait du sens de jouer là-bas et je suis tellement honoré de pouvoir effectivement être le premier stand-upper à fouler les planches de l'Odéon.
Parlons de l'humour, justement, Panayotis Pasco. C'est l'armure qui vous a permis de vous protéger avant de réussir à trouver vos mots pour vous raconter et donc évoluer et grandir.
Oui, je crois aussi que c'était une manière de dire aux gens vous avez vu, l'atmosphère, elle est un peu plus cool quand je suis là, donc essayez de m'aimer. C'était une manière d'être aimé, mais je pense que... Après, si on rentre dans la psychologie, je crois que tous les gens qui ont un trait d'humour assez prononcé ou qui ont envie de faire de l'humour, ça vient d'une blessure à un endroit. Ça peut être pour de l'attention, parce qu'on a peur de pas être aimé, ou ça peut être pour faire diversion. Moi, c'est un peu tout ça mélangé. Je crois qu'il y a cette idée de transcender une anxiété et un rapport existentiel un peu en questionnement tout le temps. Je place ça dans l'humour. Moi, c'est une manière de retirer la gravité des choses que je trouve graves dans la vie. Je fais du léger avec du lourd. C'est ce que je tente de faire, en tout cas.
Vous avez entamé une quête depuis quand même pas mal de temps,
ouais.
Au début en secret. Cette quête, c'était de pouvoir savoir vraiment qui vous étiez, si vous pouviez annoncer définitivement qui vous étiez aux uns et aux autres pour pouvoir vivre pleinement la personne qui vous correspondait avec les ingrédients qui vous constituent d'ailleurs. Est-ce que le livre, c'est cette espèce de promesse de ne plus mordre la poussière en quelque sorte, parce que c'est quand même une promesse que vous vous faites, vous a permis justement de vivre différemment, mieux?
C'est vraiment en lien avec votre question d'avant, mais... Alors mon éditrice Paloma, que je remercierai jamais assez de m'avoir accompagné dans cette aventure, à la base le livre je l'ai écrit puisque moi j'avais vraiment des choses que je traversais, ma manière de les sortir effectivement, de presser la plaie pour que le pus sorte totalement, c'était d'écrire. Donc le soir je faisais des insomnies, j'écrivais jusqu'à pas d'heure. Et en fait je mettais beaucoup beaucoup de blagues dedans. Et à un moment elle m'a dit, mais est-ce que t'es sûr que ça ne gêne pas le propos, ces blagues-là? J'ai retiré toutes les blagues, le propos s'est défendu tout seul et ça m'a vraiment fait du bien en fait. Et je me suis dit, effectivement, il y a des moments où t'as pas besoin tout le temps de faire des blagues pour être aimé ou pour intéresser les gens. Et ça a été vraiment, il y a eu un avant-après en tout cas pour moi autour de ce livre, et surtout l'accueil sur lequel je comptais pas du tout. Moi je m'étais dit, ça y est, le travail est fait, j'ai sorti ce livre et c'est terminé. Et puis après ça m'a rattrapé parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui l'avaient lu et ça a été vraiment un gros pivot pour moi. Et je crois que ce spectacle, d'ailleurs ce second spectacle que je fais en ce moment, en tournée à Paris entre les deux, je crois qu'il est peut-être plus solide grâce au livre. Il est peut-être plus marrant même grâce au livre, parce que d'un seul coup de monter sur scène sans avoir la pression de se dire il faut faire rire les gens, sinon ils vont pas t'aimer, ils vont te huer, et au final j'ai été plus moi-même et donc peut-être plus marrant.
C'est incroyable comme le fait de ne pas être aimé, de le manque d'amour, le manque d'estime de soi est au centre total de votre écriture.
Mais de tout le monde, enfin tout le monde a ça. Je pense que je peux aller demander à vos collègues en régie, je peux vous demander si on discute et qu'on va boire un coup un soir et qu'on parle vraiment. Tout le monde a une faille comme ça à l'intérieur où on s'est senti pas aimé. D'ailleurs c'est marrant, c'est des prismes, mais il y a toujours des moments, je crois, pour tout le monde. Il y a 3 semaines, quand je jouais mon spectacle, il y a une dame de 80 ans à la sortie qui m'a dit qu'elle avait eu l'impression que je racontais sa vie sur scène. Mais pourtant, c'est une dame de 80 ans, je suis un jeune homme de 27 ans qui connaît rien à la vie. Et en fait, on a tous des blessures en commun et on a tous envie d'être aimé, je crois, quand même.
En même temps, ce trop-plein d'amour est devenu effectivement un trop-plein d'amour à un moment. Il y a eu tellement de choses, Panayotis Pasco, avec ce livre, qui se sont déclenchées chez les gens, chez vous. Vous avez repoussé un peu, remis au centre du débat public, justement, le fait de vivre sa sexualité, le fait d'être accepté dans sa famille, le fait justement de ne pas forcément aller bien. On parle beaucoup de la santé mentale, mais ça a été très longtemps un sujet tabou. Le fait de contribuer à ça, est-ce que c'est pas finalement votre plus grande fierté et votre plus grande responsabilité, vous qui voulez rester dans l'entre-deux?
Vous dites littéralement le terme qui m'effraie le plus. Non, je veux pas du tout cette responsabilité. Moi, encore une fois, j'ai écrit ce livre pour moi-même. Je l'ai proposé à la lecture, mais à aucun moment je dirais que je ne veux pas prendre de responsabilité de porte-parole ou autre. Il y a beaucoup de gens qui me l'ont dit ou d'associations qui m'ont approché ou autre, mais je suis encore quelqu'un en construction. Et en fait, c'est peut-être ça la clé, c'est qu'on est toujours en construction, évidemment. Et à un moment, on commence à faire croire qu'on sait qui on est, mais on sait jamais vraiment qui on est. Je me questionne moi-même tout le temps, en fait. Donc, je peux pas avoir la responsabilité de donner des directions ou des conseils à des gens, alors que moi-même, je suis en pleine recherche permanente de direction et de conseils. Mais vraiment, je pense qu'on voit le premier spectacle, on lit le livre ou on voit le second.
Il y a cet écart quand même, entre les deux personnes différentes.
Et c'est ça aussi qui est beau. Si je devais être tout le temps la même personne sur 80 ans, jusqu'à mon dernier souffle, ce serait peut-être chiant. Je crois que c'est plutôt agréable de se dire qu'on se remet en question tout le temps et qu'on change de personnalité et qu'on verra ce qui retombe sur ses pattes ou non.
Bon, en tout cas, l'entre-deux, c'est un espace-temps qui, à un moment donné, va devoir s'arrêter. Ce qui ne change pas, c'est que vous gardez vos yeux d'enfant, quoi qu'il arrive.
Vous trouvez ?
Vous ne vieillissez pas, vous grandissez, inévitablement, puisque vous vous émerveillez toujours autant et davantage, j'ai l'impression, au fil du temps.
J'essaie, c'est de plus en plus dur. Et je pourrais plus vous dire le philosophe qui dit que l'enfance, c'est le présent. Et plus on grandit, moins on est dans le présent. Soit on aime voyager dans le passé pour se rassurer, soit on on se projette énormément avec ambition ou pour une recherche de stabilité. Et pour moi, les yeux de l'enfant, c'est les yeux du présent. C'est être là en interview avec vous et ne pas penser à ce que je fais après ou ne pas me dire, tiens, si je dis pas cette phrase, mon attaché de presse va pas être content parce que j'ai pas dit que, c'est être vraiment avec vous et discuter. Et ça, on le perd de plus en plus souvent. Enfin, on se l'est dit tous les deux avant cet entretien. On est dans une grosse rentrée, on doit faire plein de choses. On est tous dans cette énergie tout le temps, mais à un moment, il faut prendre le temps de respirer, de se dire juste là, on vit un super moment. On se connaissait pas avant cet entretien. On apprend à se rencontrer, on se connaît et c'est peut-être là que réside l'enfance aussi. C'est juste profiter de l'instant présent.
Il y a un fil d'Ariane dans tout ce que vous écrivez, proposez, finalement dans ce que vous incarnez, c'est la liberté. C'est assez étonnant d'ailleurs parce que vous utilisez un prisme qui interpelle. C'est ce besoin de liberté qui vous pousse à avancer. Et en même temps, c'est la peur par moment de ne pas réussir à défaire vos liens qui vous angoissent. C'est très étonnant en fait. Là aussi, il y a un entre-deux.
Oui, c'est une aspiration à la liberté, mais en même temps, le plus liberticide autour de moi, c'est moi. C'est moi qui ai peur à plein d'endroits. Je suis vraiment un angoissé. Moi, je m'endors jamais sans avoir fixé 45 minutes le plafond et en me disant que j'ai foiré ça dans ma journée et qu'il faut pas que je foire ça demain. Et j'angoisse toujours. Avant de sortir cette petite revue, je me suis dit, mais pourquoi je fais ça? C'est débile, j'embarque plein de gens dans un truc neuneux. Le spectacle, pareil. Souvent, en montant sur scène, je me dis, mais pourquoi tu fais ce métier? Pour qui tu te prends d'aller jouer devant autant de gens? Et souvent, la personne qui m'étouffe le plus, c'est moi-même. Mais c'est un combat que je pense qu'il y a à l'intérieur de plein de gens. Et j'essaie de trouver des bulles de respiration. Et entre autres, je me concentre sur le fait que la scène, je le fais pour rencontrer des gens tous les soirs, rigoler avec des gens. Et encore une fois, quelle chance, vous vous rendez compte, mon métier, c'est 5 soirs par semaine d'être avec des gens différents et de rigoler pendant 1h30, sans portable, sans actualité, sans rien. On est ensemble dans une salle et on rigole. C'est tellement jouissif et c'est une chance.
Ce qui a évolué, par contre, c'est votre rapport au sens du vide. Vous avez eu très longtemps la peur du vide. C'est ça, en fait, le fait de parler tout le temps, de faire de l'humour, de faire des vidéos, de créer un rythme, finalement, de faire du montage. Le besoin de monter sur scène, c'est certes celui de rire, mais c'est d'abord celui de partager yeux dans les yeux, parce que finalement, le public qu'on a est souvent le miroir de ce qu'on est et de ce qu'on raconte.
C'est marrant, moi, par exemple, avec ce spectacle qui traite de l'entre-deux, j'ai jamais eu autant de quarantenaires ou de parents de 50, 60 ans, grands-parents dans ma salle. C'est ce que j'adore, hein, vraiment. Et un truc de connexion qui se fait pas forcément sur ce qu'on raconte, mais sur ce qu'on ressent. Et c'est un spectacle, effectivement, qui traite vraiment, vraiment avec humour et parfois débilité, qui traite de cette perte de sens, de ce moment, parfois, où on est un peu à côté de la vie. Et ça arrive à tout âge, ça, en fait. Moi, je...
Et à côté de nos pompes aussi. Hein.
Exactement, mais je parle moi de ma phase actuelle, mais en fait, cette dame de 80 ans qui me parlait, elle me racontait qu'elle elle a perdu son mari, elle est toute seule et elle a l'impression de ne plus être liée à la vie, et elle me dit, je me suis reconnue. On traverse tous ces choses-là. Moi, je le fais avec humour et je tiens à le faire avec humour, et mon but principal, c'est de faire rire les gens et de rigoler avec eux. Mais il y a une règle assez magistrale dans le stand-up, c'est que plus c'est personnel, plus ça devient universel. Ça, je l'ai vraiment découvert avec ce second spectacle. Et puis, ouais, il y a vraiment cette envie de partager avec les gens et de rigoler. Et le rire, pour moi, est le plus grand raccourci d'un individu à un autre. Quand, si les auditeurs ou auditrices vont pouvoir reconnaître ce moment. Mais parfois, on va boire un pot, on a un ami en commun, puis il y a 20 personnes qu'on connaît pas. Puis c'est un peu gênant, on se raconte tout ce qu'on fait, puis on n'est pas vraiment lié à eux. Et à un moment, il y a une bonne blague qui tombe, que Didier, qu'on connaît pas, vient de faire. Il y a un énorme rire. Et là, d'un seul coup, tout le monde se détend et on se rend compte pour de vrai. Et bah, c'est ça que j'ai la chance de vivre tous les soirs avec des gens. On est 1500, 600, 2000, 4000 pour les zéniths ou autres. Mais en fait, à un moment, il va y avoir un rire et on est tous ensemble et on se rencontre et on est une espèce de boule d'énergie. On va rigoler ensemble pendant une heure sur une même histoire qui nous touche tous à des endroits différents. C'est ce que j'aime le plus dans mon métier, en tout cas.
Quand vous étiez enfant, donc 6 enfants, des parents qui voulaient absolument que vous fassiez toutes et toutes du sport, vous avez fait plein de sports différents,
ouais,
d'ailleurs.
Toujours été soit viré, soit trop nul, et du coup, ça s'arrêtait. Mais...
Ouais, vous êtes rendu compte, d'ailleurs, c'est assez rigolo, cette anecdote, que votre arrière-grand-oncle avait été un international de rugby, et qu'ensuite, il avait été ministre des sports sous Pétain.
Exactement, Vichy, merci de dire ça à la France entière, c'est pas grave. Effectivement, j'ai des gens qui étaient très très proches de Pétain dans ma famille, mais c'est un arrière-grand-oncle. Mais voilà. Allez-y, continuez, poursuivez.
Ce qui est étonnant, c'est que dans le sport, vous dites « j'ai jamais eu le mental ». Mais jamais. En même temps, la compétition, vous l'avez créée contre vous-même.
Oui, ah, mais j'ai jamais eu le
Donc
mental.
Donc finalement, vous l'avez le mental.
Bah, pas au bon endroit, en tout cas. Bah, peut-être pas, je sais pas, mais...
Il en fallait du courage pour sortir cet ouvrage. Hein.
Ou une espèce de lâcheté, parce qu'au final, au lieu de régler mes problèmes comme les grands et les grandes sont censés le faire, en discutant avec nos proches, en allant peut-être chez le psy ou autre, bah, moi, j'ai écrit un bouquin en buvant des whisky le soir sur un clavier et je l'ai sorti en librairie. On peut le voir aussi du prisme de la lâcheté. Enfin, il y a les deux qui sont possibles et peut-être que c'est un mélange des deux et c'est ça qui fait la saveur de l'existence. C'est qu'on n'est jamais totalement courageux ou lâche, totalement mature ou immature, on est un peu des deux. Et moi, j'ai jamais eu l'impression d'être courageux quand je sors le livre. Je me dis juste, c'est nécessaire pour moi et la manière pour moi d'être en contrôle sur ce questionnement, c'est d'écrire. Mais à plein d'endroits, enfin, il y a pas longtemps, j'avais un petit bidon. Bon, je sortais donc de cette dépression et j'avais pris beaucoup de poids. Je voulais perdre mon petit bidon. Je me suis pris un coach de sport. J'ai pas cette mentalité. Quand le coach me disait venez chez moi et me criait dessus en me disant fais 20 pompes de plus, à un moment, j'ai dit non. Et il a dit bah si. J'ai dit, bah non. J'ai dit, bah, je vous paye. Enfin, j'ai dit, non, c'est non. Et elle a fait, bah oui, mais du coup, il n'y a plus de séance de sport. J'ai dit, bah non. Et il est parti et on ne s'est jamais revu. Et en fait, je m'étais dit, bah oui, si je ne veux pas faire 20 pompes de plus, je ne fais pas 20 pompes de plus. Donc, en sport, j'ai aucune mentalité. J'ai aucun savoir-vivre même.
C'est en ça d'ailleurs qu'il y a une vraie dualité chez vous. Il y a des choses qui s'affrontent, c'est-à-dire que vous êtes attiré par la liberté, mais finalement vous la refusez.
Ouais.
Vous avez envie de grandir, mais vous ne voulez pas vieillir.
Totalement. Ou du moins, je regrette l'enfance, ça c'est sûr et certain, et j'aimerais revivre une enfance que j'ai pas vraiment bien vécue.
Il y a un moment donné qui est assez fort d'ailleurs dans les échanges là. Il est dit que à certains soirs, vous n'avez pas envie d'aller mieux. Enfin, l'artiste qui est sur scène n'a pas envie d'aller mieux. Il y a cet emotional masochisme en fait qui rentre en ligne de compte.
Ouais, bien sûr. Je crois, mais c'est marrant. Je crois que j'écoutais il y a pas longtemps une interview de Jérôme Commandeur qui parlait de ça. Je crois qu'en fait, les personnalités anxieuses et beaucoup de gens le sont. En fait, quand ça va bien, on a toujours peur parce qu'on ne sait pas ce qui peut mal se passer. Alors que quand ça va mal, au moins on est en contrôle. On sait que ça va mal. On sait gérer quand ça va mal parce qu'on est anxieux par nature. Et du coup, on peut travailler à ce que ça aille mieux. Mais quand ça va bien, d'un seul coup, c'est terrorisant parce qu'il n'y a plus de quête. Ça va bien. Il faut juste que ça se poursuive peut-être. Et d'ailleurs, si ça va vraiment bien, on se pose même pas la question de pour combien de temps. C'est que ça va vraiment bien, on est dans le présent, on est à fond. Mais d'un seul coup, quand ça va bien, moi j'ai toujours une angoisse de me dire putain, ça va mal aller, je vais me prendre une claque, je vais m'éclater la tête. Quand est-ce que ça va arriver? Comment? Et du coup, ça fait que je vais mal. Donc parfois, quand je suis plutôt heureux d'être en questionnement, en doute et de pas très bien aller.
Est-ce que c'est pas aussi le fait de ne pas forcément accepter de toucher au bonheur? Est-ce que c'est pas ça qui vous fait peur? Le fait de pouvoir accéder au bonheur. Dire, oh là là, mais le bonheur, en fait, déjà, c'est quoi le bonheur? Ça c'est sûr, c'est
oui,
la vraie
sûr,
question.
Chacun mais sa définition.
Quelle est la limite et à quel moment je suis heureux ou malheureux? Mais si je suis heureux à un moment donné, c'est finalement un peu comme l'esprit du sportif de haut niveau. C'est une fois que j'ai atteint la place de numéro 1, comment je la conserve?
Bah oui, mais on parlait juste avant dans cette revue donc, qui vient compléter un peu le spectacle sur les thématiques. J'ai eu la chance de discuter avec Agnès Jaoui et on parlait justement du fait qu'atteindre les rêves, parfois c'est pas bien en fait. C'est d'atteindre son rêve, ça crée une quête existentielle dans la foulée de merde, je m'étais programmé depuis des années à atteindre ce truc. Maintenant que je l'ai atteint, où est-ce que ça va? Moi en tout cas, le bonheur, quand j'ai écrit le livre, donc j'ai traversé une dépression mélancolique, qui est une dépression assez particulière. Ça produit plus de sérotonine et d'un seul coup, on rentre dans des paranoïas un peu bizarres. Emmanuel Carrère a écrit un livre sur cette dépression mélancolique qui s'appelle Yoga, qui est un livre fantastique. Si vous traversez ce genre de choses ou pas, d'ailleurs, vous aimez les bons livres, lisez Yoga. Et donc, j'ai rencontré Emmanuel Carrère pour parler. Avec lui, il a accepté. On a fait 4 heures ensemble en buvant des cafés à tout va. Et je lui ai dit à un moment, mais Emmanuel, comment t'arrives à continuer la vie si tu sais que tu seras pas heureux? Comment tu peux continuer à te réveiller le matin si tu sais que c'est pas facile d'accès? Et il m'a dit, je le fais tous les jours. Il faut que tu lâches l'affaire. Et j'en parle dans le spectacle. Il faut accepter que la vie, c'est pas ouf. On nous a dit, enfant, mais tu verras, la vie, c'est incroyable et tout. Et en fait, au final, du coup, on est déçu quand c'est pas incroyable. Mais si on part du principe que la vie, c'est pas ouf, qu'il faut lâcher l'affaire pour accéder au bonheur, bah, quand ça vous tombe dessus, c'est incroyable. Si vous vous dites, je vais marcher dans la rue en espérant trouver 20 balles, bah, vous allez être déçu de pas avoir trouvé 20 balles. Mais si vous vous dites rien et que vous tombez sur 5 euros, vous allez être content d'être tombé sur 5 euros. Et donc, j'ai changé mon rapport à la vie. Au lieu de me dire, tout doit être exceptionnel, je dois être heureux et tendre vers le bonheur, je me dis, juste, essaie d'être dans le présent, de rencontrer des gens, de passer des moments qui te sont agréables. Et par moment, cette petite grâce va se saupoudrer et tu te sentiras heureux à ta place.
Qu'est-ce qui vous rend ouf alors, pour reprendre votre terme?
Bah, je crois moi que c'est les gens en fait, c'est les endroits d'humanité. Je sais pas, de rencontrer, c'est toujours les rencontres moi quand même. Bah, entre autres, cette revue elle est venue de là. Je voulais rencontrer plein de gens dans plein de domaines pour parler de cette thématique qui me tenait chère à cœur. Mais c'est les rencontres moi, c'est de rencontrer des humanités qui ont d'autres lectures. Moi j'ai un côté très stagiaire dans la vie, même dans le travail en fait, et j'aime rencontrer des gens qui vont me dire d'un seul coup, ah t'as toujours vu ça de cet angle là mais regarde, si tu regardes comme ça, tu vas découvrir autre chose. Et je suis émerveillé par ces grilles de lecture multiples de la vie, ça s'arrête jamais.
Ce sont les mots des autres qui vous ont donné envie de monter sur scène. Vous êtes toujours nourri de la littérature aussi, hein, beaucoup hein. Avant de monter sur scène, vous récitez des couplets de Dizis.
Ouais, exactement, ouais.
Carré bleu, ce qui est plutôt assez rigolo. Je voudrais qu'on parle de Damso justement, puisqu'on parle de rappeur, de slammer. Damso dit, la plus belle relation que tu peux avoir sur Terre, c'est avec toi-même.
Bah, il le dit justement dans cet entretien qu'on a eu pour la revue.
Mais ça prend du temps de s'accepter soi-même, d'accepter de se confronter. Et...
si vous avez lu l'entretien en entier, je lui dis que moi, c'est une des choses qui me terrorise le plus. Lui, parfois, il arrive à rester, il me disait, 3 heures sans parler, juste à l'intérieur de moi, et à me questionner, à me rencontrer. Moi, ça me terrorise. Si j'ai plus de 15 minutes où je suis seul avec moi-même, j'ai une angoisse. Et je sais pas si c'est parce que j'ai pas envie de me rencontrer tout de suite, ou si c'est parce que je vais peut-être pas aimer la personne que je suis au fond. Moi, j'ai toujours assez facilement l'impression d'être une mauvaise personne. Mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. Très vite, je peux me dire, est-ce que t'es vraiment une si bonne personne que ça? Donc je crois que j'essaie d'étouffer ce truc de manière un peu débile en plus. Hein. Mais c'est fort, j'aimerais être ce qu'il décrit. dans cet entretien, et c'était un entretien super, moi j'ai appris plein de choses. Il m'a dit quelque chose, moi, qui m'a beaucoup aidé dans cette petite revue entre les deux. Moi, je lui disais souvent que j'avais énormément de peur et qu'elle restait, en fait. Quand j'ai une peur, elle s'active et elle peut rester pendant des semaines. Et lui, il m'a dit, mais une peur, c'est une alarme. J'ai dit quoi? Il m'a dit, moi, je vois les peurs comme des alarmes. Quand elles arrivent, je me dis, ah, c'est que mon cerveau a pas dû comprendre quelque chose s'il y a une peur. Il faut que j'analyse. Et en fait, il m'a dit, si c'est une alarme, si ton alarme, elle sonnait toute la journée, c'est qu'il y a un problème avec ton alarme. Une alarme, elle est censée sonner 10 secondes, puis tu l'éteins et tu te dis, ok, il faut passer à autre chose, il faut se réveiller ou il faut faire quelque chose. Et il m'a dit, si ta peur, elle sonne tout le temps, c'est que peut-être tu n'as pas analysé vraiment ce que l'alarme te signalait. Et donc ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé, par exemple. C'est une grille que j'avais jamais vue sur les peurs. Moi, je pensais naïvement et je me disais, les peurs, tu dois vivre avec. Quand t'as une boule au ventre, c'est normal de l'avoir pendant 2 semaines. Et lui m'a dit, non, tu devrais arrêter ce que tu fais et essayer de comprendre pourquoi cette alarme, elle sonne dans ton bide. Et vous voyez, ça, ça m'émerveille, par exemple, de rencontrer quelqu'un et d'apprendre quelque chose qui me paraît aujourd'hui aussi important et de le découvrir à 27 ans. C'est ce côté stagiaire, moi, qui me fait me lever le matin.
Donc, ce côté élève, apprendre tout le temps.
Ouais.
Quand on sait que plus on sait, moins on sait.
Mais on rencontre qu'on fait un entretien très sérieux, alors que c'est un spectacle comique à la base. Hein. Vraiment, on rigole. Mais là, on est très sérieux, on se regarde Dieu dans les yeux et on a envie de discuter toute l'après-midi. Mais c'est très agréable.
Qu'est-ce qui vous fait bégayer?
C'est les gens qui me lisent mieux que moi, j'ai su me lire. Quand quelqu'un, et d'ailleurs vous l'avez fait quelques fois, je vois que vous savez très bien ce que vous faites. Et oui, les gens qui ont su mieux percevoir. Moi, je suis souvent en retard sur moi-même. Je dis des choses, puis après je me dis pourquoi je l'ai dit et je comprends pourquoi je l'ai dit, mais les gens qui comprennent tout de suite pourquoi, parfois ça me fait bégayer, effectivement ça me décale un peu, j'ai l'impression d'être vu. Et ça m'angoisse, comme vous le disiez, j'ai construit tout ça autour d'une timidité, parce qu'un adulte ça doit pas être timide, donc enfin je me disais il faut pas être timide, donc j'ai essayé de vaincre ça. Et effectivement quand je suis vu alors que moi-même je m'étais pas vu, c'est bizarre, je me sens un peu à poil.
Je me posais la question de la suite, Panavitis Pasco, c'est-à-dire que là on est dans l'entre-deux,
ouais.
C'est quoi la suite?
Alors là j'ai
on
encore un
devant,
an.
On regarde derrière.
Écoutez, bonne question. Je ne savais pas que j'avais rendez-vous avec ma psy. Je vous le dis très clairement. Non,
mais
la suite, là, j'ai un an de tournée.
Si on est entre deux, quelque part, c'est pas être psy que de se dire la suite, c'est quoi.
Figurez-vous qu'il y a encore quelques années, justement, je me serais dit, mais alors c'est quoi la suite, etc. Et aujourd'hui, là, je me dis, t'as encore un an de tournée. Profite, sois dans l'instant présent.
Richard.
Il y a des Odéons, des Olympias. Il y a de la tournée partout. Tu vas rencontrer plein de gens et kiffer. La suite, en vrai, je crois que c'est peut-être ce que je raconte dans le spectacle. C'est trouver un accès au bonheur qui est pas dans l'artifice. Qui est pas dans l'organisation, qui est de l'ordre de la paix interne. C'est peut-être ça, j'aimerais. Mais peut-être que ça arrivera quand j'aurai 93 ans et plus qu'une seule dent, et c'est pas grave. C'est d'y tendre, en tout cas.
Ce qui est assez fou à travers tout ça, et c'est ce qu'on ressent à travers ce spectacle, réellement, c'est que vous avez mis le doigt sur une chose très importante, c'est qu'il faut accepter et davantage se respecter dans sa différence.
Mmh.
La différence, c'est justement ce qui nous rend unique.
Ouais.
Ne pas suivre le groupe et accepter qu'on est composé de nuances.
Exactement. C'est quelque chose qui met du temps, je pense, hein, à accepter. Mais c'est marrant, justement, dans le spectacle, je parle beaucoup de l'enfance. Mais j'ai un peu voulu travailler le spectacle à l'inverse
tout
des autres humoristes.
Tout est basé sur votre enfance,
ouais.
Le spectacle.
Mais j'arrive sur scène et je fais tout de suite le constat de toutes les merdes que j'ai traversées l'année dernière. Et ça commence très bas. Évidemment, il y a beaucoup de blagues, mais entre autres, comme vous l'avez dit, j'arrive et je dis, j'ai appris, mais au bout de 2 minutes, hein, je dis bonsoir, j'ai appris arrière-grand-oncle, mini sous Vichy, dépression, j'ai un début de calvitie, c'est mon podologue qui me l'a dit, ça n'a aucun sens.
Heureusement qu'il y a la poudre.
Exactement, la petite poudre pour se mettre dans les cheveux, à ne pas confondre avec la cocaïne, faites attention à ce que vous dites. Et en fait, je tends vers comment essayer de vivre avec ça, avec cette perte de sens. Et effectivement, c'est accepter ces petits endroits de décrochage comme ça, ces petits endroits qui sont différents des autres, les petits cabossages de parcours, quoi. Qu'est-ce qui fait que mon oncle il va plus aimer son ancienne voiture qui a vécu les 3/4 de sa vie plutôt que la nouvelle toute neuve? Bah, c'est parce que chaque petit cabossage raconte une histoire ou raconte quelque chose. Faut accepter ça, en fait. On a tous des petits endroits où ça bloque. Moi, il y a des choses qui me taquinent, qui m'énervent. Je suis très mature à des endroits et très immature à d'autres. Faut que je l'accepte, c'est ma différence. Même si je dois travailler dessus, c'est aussi ce qui fait que je suis une personne à part entière.
Merci Panagiotis Pasco d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info. L'entre-deux, la revue est disponible. Le spectacle également. Vous serez à l'Odéon du 26 au 31 décembre et du 20 au 24 janvier à l'Olympia. Et ensuite, évidemment, en tournée dans toute la France. Merci beaucoup.
Merci beaucoup de m'avoir accueilli.